nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Canal Académie vous propose de continuer à découvrir les différents métiers qui s'exercent aujourd'hui au Muséum National d'Histoire Naturelle. Aujourd'hui, nous allons prendre de la hauteur puisque Éric Guilbert, qui est mon invité, va nous présenter sa profession de grimpeur naturaliste. Éric Guilbert, bonjour.
Bonjour.
Alors, Monsieur Guilbert, avant d'aller tutoyer la cime des arbres, puisque c'est bien ça dont il s'agit dans votre quotidien, vous êtes devenu naturaliste au Muséum National d'Histoire Naturelle, où vous êtes spécialiste des hétéroptères. C'est bien ça ?
On est d'accord.
Et alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord, pour qu'on prenne un peu conscience des petites bêtes avec lesquelles vous travaillez, nous décrire ce que sont les hétéroptères ?
Alors, hétéroptères, c'est un ordre d'insectes. On appelle hétéroptères toutes les petites bêtes qui ont un rostre, donc un appareil piqueur-suceur, qui leur sert donc soit à sucer la sève des plantes, soit certains hématophages piquent les animaux à sang chaud. Il y a aussi des prédateurs, enfin, il y a toute la panoplie des différentes régimes trophiques.
Et donc on y trouve les punaises ?
On appelle punaises vraies les hétéroptères. Punaises vraies parce qu'il y a d'autres punaises qui font partie d'un ensemble plus large qui s'appelle les hémiptères. Et dans les hémiptères, il y a différents groupes, dont les punaises hétéroptères, dites punaises vraies.
Et alors Éric Guilbert, avant de devenir grimpeur naturaliste, vous étiez naturaliste tout court, j'ai envie de dire. Quelle formation vous avez suivie pour entrer au Muséum d'Histoire Naturelle et pour devenir donc naturaliste ?
Alors, naturaliste, c'est plutôt de cœur, si je puis dire. La profession, c'est systématicien. C'est un parcours universitaire classique qui emmène jusqu'à la thèse, donc c'est un bac plus 8, c'est assez long. Après ce bac plus 8, quand on a la chance de trouver un poste, en plus au Muséum, on devient maître de conférence du Muséum, qui est un corps propre, dont les missions sont essentiellement la recherche, l'enseignement, la diffusion au sens large, et la gestion des collections qu'abrite le muséum. Alors, je suis entomologiste, c'est une spécialité de la systématique. Enfin, je suis spécialisé donc dans les insectes, plus précisément hétéroptères, et encore plus précisément, certaines familles parmi les hétéroptères. Faut pas oublier que les hétéroptères, ça représente à peu près 35 000 espèces sur cette planète. Donc, on n'est pas spécialiste de 35 000 espèces, ça n'est pas possible. Ça, c'est le cursus, c'est ce qui amène à un poste de maître de conférence, où on est donc chercheur, enseignant-chercheur, scientifique. La spécialité systématique, donc qui consiste à identifier, décrire les espèces et étudier leur comportement, leurs habitudes, leur environnement, etc., etc., pour arriver à des synthèses sur leur évolution. Après, naturaliste, c'est le cœur qui emmène sur le terrain et sur l'observation du monde vivant en général.
Donc il faut déjà, de prime abord, être passionné par les insectes ?
J'allais dire oui, mais oui. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai fait un cursus d'océanographie biologique, c'est-à-dire que j'étais porté sur les poissons au départ. Je me voyais bien avec ma petite calypso, mon petit bonnet rouge, plongé dans les mers du globe. Les insectes, comme n'importe quel autre être vivant, c'est un modèle intéressant. Je raisonne en tant que modèle, c'est-à-dire que c'est... On utilise les insectes ou les autres modèles pour répondre à des questions sur l'évolution. Alors les insectes sont tout aussi passionnants que les poissons, en fait. Donc je suis tombé dedans, si je puis dire, par la force des choses.
Et c'est un métier qui, finalement, a une perspective d'avenir sans fond, puisqu'il y a des millions d'espèces d'insectes et peut-être... certaines qu'on ne connaît pas encore.
Oui, oui, oui. On estime à un peu moins de 2 millions d'espèces décrites sur cette planète. Les estimations, elles sont très larges parce que c'est des spéculations sur des petits échantillons. Donc ça a été jusqu'à 30 millions d'espèces. On va dire que la moyenne est de 10 millions d'espèces sur la planète. Donc ça laisse une certaine marge de manœuvre, surtout sur les insectes qui représentent aux alentours de 50% des espèces vivantes.
Et alors un jour, vous vous êtes dit, bah, pourquoi pas aller chercher les insectes dans leur milieu naturel ? Puisqu'avant, donc, vous étudiez, en tant que naturaliste, leur mode de vie au sol, c'est ça ?
Au sol, à portée d'homme, si je puis dire, ou à portée de main.
À portée de main. Et un jour, vous vous êtes dit, pourquoi pas monter tout là-haut dans les arbres, dans la canopée ?
C'est ma thèse qui m'a fait penser, parce que j'ai fait ma thèse sur les insectes de les arthropodes terrestres, plus largement, des forêts de Nouvelle-Calédonie. Et c'était au moment où il y avait une espèce d'euphorie sur l'utilisation d'une technique qui s'appelle le fogging. Et qui consiste donc à balancer de l'insecticide à la cime des arbres. Ces espèces de canons insecticides qu'on utilise pour traiter les cacaoyers ou les grandes plantations arbustives. Donc j'ai fait ma thèse sur ces foggings. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de bêtes, souvent inconnues, mais je ne savais pas d'où elles venaient, si ce n'est qu'elles tombaient du ciel. Et donc je me suis vite posé la question de savoir d'où elles venaient exactement. Et pour ça, c'était pas compliqué, il fallait monter de les trouver.
Et alors, comment ça s'est passé? Vous avez suivi une formation de grimpeur, d'escalade?
C'est à la même époque où les accrobranchés ont commencé à émerger. Donc, je me suis rapproché des accrobranchés. J'ai rencontré un grimpeur de haut niveau, qui s'appelle Lionel Picard, chez qui j'ai fait une formation de grimpe, plusieurs formations. Il a été interpellé par ma démarche et on a fini par faire équipe. Donc voilà, j'ai appris à grimper et à donc avoir accès aux arbres et donc aux bêtes qui s'y trouvaient.
Et alors concrètement, la formation de grimpeur se passe comment et sur une durée de combien de temps?
Alors à l'époque, il y avait une formation qui s'appelait une initiation qui durait une semaine. On apprend à se familiariser avec le matériel, les nœuds, les techniques. Et bon, c'est évidemment beaucoup de pratique. Et après, il y a une formation dite de perfectionnement qui permet de faire des trucs un peu plus variés comme des tyroliennes ou des ponts de singes qu'on n'utilise pas au quotidien. C'est plutôt de l'animation ou on va dire une activité sportive qu'autre chose à ce niveau-là. Mais on apprend tout un tas de techniques qui peuvent s'avérer utiles une fois en mission.
Et alors une fois arrivé en mission, Eric Gilbert, comment ça se passe? Vous arrivez avec tout votre matériel, vous avez un accompagnateur, un formateur qui vient avec vous, un photographe, peut-être aussi d'autres naturalistes, d'autres spécialistes de d'autres espèces, et vous montez comme ça en équipe, vous choisissez une zone?
Voilà, ça se passe comme ça, oui. En général, on travaille en petite équipe de 6 personnes en moyenne, qui comprennent un grimpeur, donc Lionel Picard en l'occurrence. C'est la garantie d'accès à la canopée en toute sécurité, c'est condition sine qua non pour y aller. Il y a bien évidemment un reporter photographe en la personne de Philippe Saïla. C'est la restitution sous forme d'images et de reportages. Et il y a le staff scientifique, donc d'autres systématiciens qui viennent avec moi, systématiciens naturalistes, qui travaillent, ça reste essentiellement de l'entomologie, donc des groupes d'insectes divers et variés, mais ça peut être aussi des botanistes, des vertébristes, et, enfin n'importe quel naturaliste qui ait besoin de monter dans les arbres.
Et alors une fois arrivé à la cime des arbres, comment ça se passe? Vous installez un camp, vous avez des toiles tendues ou bien vous restez accroché?
Alors en général, la mission elle est organisée avec certaines minuties, de façon à avoir des sites sur lesquels on peut travailler sans problème. On arrive donc dans les milieux forestiers. Sur site, on va choisir les arbres sur lesquels on va travailler. Il faut que ce soit des arbres qui puissent nous porter déjà et suffisamment haut pour nous permettre de naviguer dans l'ensemble de la canopée. Le grimpeur équipe les arbres pendant que nous autres scientifiques travaillons au sol. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la faune du sol, sur la faune du sous-bois. Et une fois que les arbres sont équipés, on va commencer à monter. Alors, je vous passe les détails de l'organisation, mais en gros, voilà, on se relaie sur l'arbre, au sol, de façon à ce que l'ensemble des compartiments de la forêt soient optimisés pour tous. Et à partir de là, comme c'est du matériel léger, puisque ça fait appel à des cordes et baudriers et autres matériels légers, on déséquipe le soir ou deux jours plus tard quand on a fini de travailler sur la zone et on va équiper plus loin. Alors matériel léger, ça veut dire quand même un barda de facilement 20 kilos sur le dos. Donc ça limite un peu les déplacements dans le sens où il faut les porter. Mais ça reste léger dans le sens où on peut équiper et déséquiper à notre convenance.
Parce que vous, en plus du matériel d'escalade, en quoi consistent les outils que vous amenez avec vous?
On a les outils qu'on utilise d'habitude pour nos chasses entomologiques, donc un matériel relativement léger. Ce peut être du matériel pour faire de la chasse directe à vue ou du matériel de piégeage. Il est tout simplement adapté à la canopée. Ça veut dire que, par exemple, on va utiliser des cadres pour percher des pièges de malaise en canopée, alors qu'au sol, on ne met pas de cadre. Le parapluie japonais qui sert pour battre dans le sous-bois, il va être modifié pour pouvoir être manipulé plus facilement en canopée. Mais c'est des modifications mineures.
Et alors, une fois en haut, il vous arrive de rester combien de temps au maximum?
On peut rester 3 heures dans un arbre, à peu près, parce que déjà 3 heures, ça fait long, dans le sens où un baudrier, c'est, même s'ils sont étudiés pour, ça, c'est pas très, très confortable. La marge de manœuvre reste plus limitée, bien évidemment, dans la canopée qu'au sol, donc 3 heures, c'est une bonne moyenne déjà. On peut rester plus si l'arbre s'y prête, mais c'est presque du zèle.
C'est pour profiter de la vue, peut-être?
Ah oui, bien sûr, on n'oublie pas de profiter du moment, parce qu'il est assez exceptionnel, ça c'est clair.
Et alors, j'imagine qu'arrivé en haut, vous devez jubiler en vous disant peut-être que là, je vais découvrir une nouvelle espèce de punaise ou bien découvrir une nouvelle façon de vivre d'une espèce de punaise également.
Oui, on est tendu toute la journée parce que déjà, aucune mission ne se ressemble. Les profils végétaux ne sont jamais les mêmes dès qu'on change de lieu. Donc, il y a toujours cette excitation de trouver le chaînon manquant, si je puis dire, la bête rare. Alors, quand on les trouve, c'est assez exaltant, en fait.
Et vous étudiez aussi leur façon de fonctionner, de vivre en hauteur?
Quand on peut, oui. En fait, le mauvais réflexe, c'est dès qu'on en voit une, c'est de lui sauter dessus pour la garder et la ramener au labo. Le bon réflexe, quand on arrive à le maîtriser, c'est de la regarder d'abord. J'ai la chance, je travaille sur des bêtes qui ne bougent pas trop. Donc, une fois que je les ai vues, je sais où elles sont et elles ne vont pas se sauver comme ça. Donc, si j'ai la chance de pouvoir les observer avant d'en prélever des spécimens, c'est autant de données originales acquises. Donc, oui, c'est important.
Et alors, grimpeur naturaliste, c'est aussi un métier qui, évidemment, amène à faire beaucoup de voyages. Vous, par exemple, vous avez été faire des missions dans quel pays ?
Le concept tel qu'on l'a défini pour ces missions, il date de 2005. Et depuis 2005, on fait à peu près une mission par an. Alors, ça a été initié en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on est parti au Gabon, Madagascar, l'Argentine, le nord de l'Argentine, la Patagonie chilienne, la Guyane française. Je dois en oublier, mais c'est les principaux sites de travail.
Et à chaque fois, comme ça, dans vos déplacements, vous êtes sûr de trouver une nouvelle espèce de punaise ou de trouver une matière après à ramener au laboratoire ?
Il n'y a aucune mission qui sont soldées par zéro spécimen. Alors, attendons, là, je parle de l'ensemble de l'équipe. Il n'y a aucune mission qui s'est soldée par zéro spécimen, l'absence de spécimen et encore l'absence d'espèces nouvelles. Il y a forcément une ou deux espèces nouvelles par groupe de découverte. Enfin, il y a une diversité insoupçonnée à peu près partout et qui reste à découvrir.
Et combien de temps vous restez à peu près en mission sur place ?
Ce sont des missions qui durent en général 3 semaines. 3 semaines parce que, alors c'est court, bien évidemment, c'est très court pour les sites qu'on va visiter, mais c'est la taille optimale pour rester efficace. Au-delà de 3 semaines, quand on grimpe de 2 à 3, voire 4 arbres par jour, on devient moins efficace avec la fatigue et on limite les dégâts.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, Gilbert, c'est que quand même, pour devenir grimpeur naturaliste, il faut avoir des prédispositions au sport et à une activité physique.
C'est une initiative, en tout cas. Il faut faire preuve de volonté. C'est assez dynamique. Bon, ça demande une certaine condition physique. Maintenant, ça reste technique avant tout. Donc, c'est pas la peine d'être Schwarzenegger pour faire de la grimpe.
Et vous, par exemple, vous pratiquez un sport ou vous aviez déjà...
J'ai une tendance sportive, ouais. Oui. J'aime l'activité sportive de longue date, donc ça ne me pose pas trop de problèmes, même si je sue et je souffle comme un homme normal.
Bon, il y a une autre chose aussi qui est importante après les voyages, après les missions sur le terrain, c'est évidemment toute la partie laboratoire. Là aussi, ça vous prend beaucoup de temps, là aussi, c'est une autre, partie.
Oui, c'est la partie cassée de l'iceberg, en fait. La partie visible de l'iceberg, c'est la mission, c'est le moment exaltant, c'est en fait le plus excitant, parce que c'est là où on acquiert les données originales. Après, il faut les traiter, et les traiter, c'est très long. Donc, si on fait un mois de mission dans l'année, tout le reste du temps, il se passe au laboratoire, à l'analyse. Donc, acquisition des caractères morphologiques, séquençage, les autres méthodes. Mais oui, c'est assez long.
Et il y a aussi la préparation des missions, parce que j'imagine que ça a un certain coût financier. Comment ça se passe ? Vous essayez de trouver des subventions ?
Voilà,
on vous aide ?
Voilà, une mission, c'est facilement un an de préparation. Parce que... il y a énormément de démarches. Alors déjà, la première démarche, c'est trouver les finances. Et ça, Dieu sait si c'est un vrai casse-tête. On fait aujourd'hui beaucoup appel à la sensibilité de l'entreprise. Donc, c'est vite du partenariat public-privé, des fonds publics qui aident à compléter les budgets. Et ensuite, il y a tout un tas de démarches administratives incontournables. L'acquisition des autorisations, parce qu'aujourd'hui, la biodiversité, c'est quand même un sujet délicat. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Bon, acquisition des permis de récolte, des permis d'exportation... et puis tout ce qui est inhérent au voyage, donc la logistique en fait.
Et quand on vous voit comme ça, les gens sur place par exemple en Argentine ou en Patagonie chilienne, est-ce qu'on se dit pas, mais qui sont ces fous qui prennent comme ça une après-midi à grimper dans les arbres ?
Ah, c'est sûr qu'on passe pour des originaux. Après la surprise, il y a un certain intérêt, les gens posent vite des questions et du coup il y a vite un échange qui est bénéfique. Donc c'est assez agréable en fait d'en parler.
Et vous arrivez à rencontrer ou à échanger justement avec d'autres grimpeurs comme ça, naturalistes de d'autres pays ?
Oui, on échange par le web, bien évidemment, parce qu'il y a pas mal de forums de discussion sur les techniques, sur les expériences. Donc ça, c'est un fait. Il y a aussi le fait, il faut pas oublier que quand on part, si la majorité de l'équipe est française, elle vient du muséum, CNRS Muséum, on emmène avec nous des collègues d'autres instituts à l'étranger, des locaux, bien évidemment. Donc on n'est pas tout seul et donc ça crée des échanges.
Donc c'est aussi un métier où il faut savoir travailler en équipe, même s'il y a une partie solitaire, j'ai envie de dire, en laboratoire, c'est avant tout un partage qui va se dérouler pendant un mois.
Absolument. Le chercheur enfermé dans sa tour d'ivoire, c'est fini cette époque. Aujourd'hui, c'est forcément en équipe qu'on travaille, que ce soit sur le terrain et en laboratoire. Il est évident qu'on échange beaucoup sur nos techniques et sur ce que l'on fait et ce qu'on voit à l'analyse aussi.
Et alors Eric Gilbert, c'est une question peut-être un peu gênante, mais est-ce qu'un jour ou l'autre, vous ne pourrez plus grimper pour des raisons physiques? Parce que c'est un métier-là, on ne le fait pas jusqu'à la retraite.
Bon, en parler pas, c'est une hantise. Tant que le cœur y tient, j'ai aucune raison d'arrêter, en fait.
Bien, merci en tous les cas de nous avoir fait découvrir cette profession. Il y a aussi un site dont je voudrais souligner la présence, c'est cafotrope.fr. Alors c'est un site sur lequel le public peut se rendre. Et là, vous détaillez vos missions, vous détaillez vos objectifs, l'équipe, etc. Il y a des très belles photos d'ailleurs.
Oui, c'est un site qui est dédié à la restitution. Donc l'idée, c'est de restituer un maximum de notre expérience, alors que ce soit sur le point de vue scientifique, sur les groupes, sur les façons d'aborder les problématiques, sur les missions, bien évidemment, et alors avec son lot de photos qui, bien évidemment, est là pour faire rêver.
Et d'ailleurs, le Muséum national d'histoire naturelle propose une exposition intitulée « Les aventuriers du Muséum Expédition en canopée ». Donc je crois qu'on vous y voit en photo aussi également, en action.
Voilà, c'est une sélection de 30 photos. Ça a été dur de sélectionner 30 photos qui représentent un peu le chercheur, on va dire, naturaliste en mission. Il ne faut pas oublier que la mission, c'est, j'allais dire, un quotidien, mais... pour beaucoup de chercheurs naturalistes, systématiciens. Donc, alors bon, il y a peut-être un petit côté original par la grimpe, mais on est nombreux à partir sur le terrain et ça se voit pas forcément. Donc c'est exaltant de pouvoir le partager et de le montrer au public.
Une exposition qui met en avant plusieurs photographies où on voit les différents naturalistes en pleine action. Cette exposition a lieu à la Grande Galerie de l'Évolution, au 36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, dans le 5e à Paris. Les horaires d'ouverture sont de 10h à 18h. Donc au Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc je vous invite à venir visiter cette exposition. Merci en tous les cas Eric Gilbert de nous avoir fait profiter.
Merci à vous.
De la vue, j'ai envie de dire. Et puis vous partez, quelle est votre prochaine mission là? Vous vous préparez déjà à aller visiter d'autres cimes, d'autres canopées?
Prochain départ le 8 novembre pour 3 semaines dans le Pont d'Hollande. C'est dans le sud de Durban en Afrique du Sud.
Et là aussi vous pensez que vous allez revenir les puisettes chargées?
Ah c'est obligé, pas le choix.
Bon, bah merci à vous Eric Gilbert, bon courage Alain.
Merci.